I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Women of the Seas. Le podcast des aventurières de la mer.
La plongée à saturation, l'air n'est pas dans des bouteilles, on est dans un espace qui est mis à la pression à laquelle on veut aller travailler. Donc par exemple, nous, si on veut avoir des plongeurs qui travaillent à 100 mètres, on va en fait les pressuriser à la pression qui existe à 100 mètres sous l'eau. Donc à 100 mètres sous l'eau, en fait, il y a 11 bars de pression, 11 fois plus de pression que à la surface de l'eau. Donc on va les comprimer un peu comme dans une cocotte minute, hein, faut imaginer, voilà. Mais bon, petit à petit, évidemment, on les comprime. En fait, après, ils descendent au fond dans une tourelle. Donc c'est une sorte d'ascenseur qui est lui aussi pressurisé. En fait, la porte de l'ascenseur s'ouvre quand ils arrivent à la profondeur voulue parce que la pression de l'eau est équilibrée avec la pression de la tourelle. Donc, la porte s'ouvre toute seule. Ils peuvent sortir. Et donc, là, ils vont respirer avec un tuyau, donc qu'on appelle un ombilical. Ils sont dans un scaphandre qui leur permet de respirer directement cet air qui arrive par un tuyau.
Julie Déter, 41 ans. Directrice scientifique des expéditions de plongée d'Andromède Océanologie, embarquée au large du Cap Corse.
Je devais avoir 15 ans, presqu'île de Gien. Donc là, c'est là où j'ai découvert l'herbier de Posidonie, sans savoir ce que c'était, en fait. Voilà, où je me suis dit, mais c'est quoi toutes ces herbes, au fond? Ah, mais c'est génial, il y a plein de trucs dedans, avec personne du tout pour m'accompagner. Donc en fait, je découvrais ce que c'était toute seule, avec mon masque et après avec des livres. Et ensuite, à 20 ans, j'ai commencé à plonger sous-marine. En fait, j'enchaînais niveau 2, niveau 3, et plongée pro. Et à côté, donc, j'ai toujours voulu faire des études dans les sciences de la vie. Ça a toujours été plus ou moins clair que je voulais travailler avec la nature, autour de la nature en tout cas. J'ai eu un doctorat en écologie, mais parasitaire. Je travaillais sur des rongeurs et les zoonoses, donc des maladies qu'on attrape à travers des agents pathogènes transmis des animaux vers l'homme. Et en fait, après ma thèse de doctorat, je me suis dit je pourrais travailler très bien sur des parasites, mais marins. Donc en fait, j'ai cherché un contrat après ma thèse qui me faisait travailler sur l'écologie parasitaire, mais marine. Et en fait, j'ai trouvé un contrat à l'Ifremer, à Brest, sur des bactéries pathogènes qui rendent malades quand on mange des huîtres et des moules, etc. La mer, il se trouve que c'est un terrain qui est particulièrement intéressant pour la nature parce que c'est un espace sauvage. C'est un des derniers espaces où on peut encore rencontrer des animaux en liberté, hyper facilement. Enfin, je veux dire, on met la tête sous l'eau, c'est incroyable en fait. Enfin, va te balader en forêt, essaye de croiser autant, enfin, de voir, t'en vois en fait. Hein. C'est facile sous l'eau. On a l'impression de pas tellement déranger, enfin, en tout cas de moins faire peur que sur terre. Et puis on peut voir aussi assez facilement des grands animaux, ce qu'on peut pas tellement faire non plus sur terre. Enfin, voilà, assez facilement on peut voir des dauphins, des rorquals. Enfin, c'est quand même des grosses bêtes, quoi. Alors que, pareil, quand on va se balader en France, en forêt, faut s'accrocher pour voir un cerf, un chevreuil approcher. Enfin, voilà, c'est pas facile. Donc, je pense que c'est ça qui m'a, que, en tout cas, j'ai apprécié dans la mer.
Et après ça, ben, finalement, j'ai été embauchée à Andromède, Andromède Océanologie. C'est une entreprise là, pour objet de conduire tout type de projet lié à l'étude, à la valorisation de l'environnement marin. Elle souhaite aussi coupler science et images, et puis sensibiliser la richesse, la beauté des fonds marins. Donc pour faire tout ça, on a trois types d'activités. Donc la première, c'est l'image avec les explorations sous-marines, et notamment bah, les expéditions Gambessa. La deuxième, c'est la surveillance biologique et la cartographie des habitats. Et la dernière, c'est l'ingénierie en écologie, donc ce qui est gestion, restauration des écosystèmes marins, accompagnement, conseil, etc. À Andromède, donc mon poste, c'est chef de projet en recherche et développement. Et donc, je m'occupe de toute la partie innovation, recherche à Andromède Océanologie. En fait, je m'occupe de développer des méthodes, au point et mettre en place des méthodes d'études du milieu sous-marin. Donc, surtout, nous, on s'intéresse surtout aux habitats sous-marins, donc là où vivent les êtres vivants. Et donc, on réfléchit à comment mieux l'étudier. Le milieu marin, c'est un milieu qui est pas facile à étudier parce que on peut pas y passer beaucoup de temps, parce qu'il fait vite froid, parce qu'on peut pas y respirer, parce que c'est long de se déplacer dessus, parce que la lumière, elle est pas pareille qu'au milieu terrestre. Enfin, bon, tout est compliqué sous l'eau. Et puis, tout simplement, on n'a pas de carte. Bah, si vous voulez aller en forêt, bah, vous prenez votre petite carte IGN là, et puis. Et on sait assez facilement s'orienter, alors que bah, en mer, c'est assez compliqué tout de suite. Première carte des fonds sous-marins, elle date de pas très longtemps. Donc, d'ailleurs, Andromède y a beaucoup participé, puisque c'est 2014, les premières cartes précises des habitats côtiers, donc jusqu'à 80 mètres de fond. Pour étudier tout ce système un peu complexe d'approche, eh bien, on met au point des méthodes faciles et rapides. Donc, nous, évidemment, comme Andromède, le point fort, c'est l'image. En fait, je base beaucoup de méthodes sur l'image. Ça, c'est beaucoup sur des quadrats photos, sur la photogrammétrie. Donc, ça, c'est comment modéliser en 3D un objet à partir de plein de photos en deux dimensions, par exemple. On essaye de passer le moins de temps sous l'eau tout en récupérant le plus d'informations possible. Donc ça peut être en posant des micros, en faisant bah, de la cartographie avec du sonar, tout un tas de méthodes qu'on va essayer qui vont se compléter les unes les autres, qu'on va coupler en fait, pour essayer d'avoir le plus d'informations possible pour nous donner une image de l'habitat. Travaille beaucoup sur les besoins en termes réglementaires. En fait, la France, elle a des obligations, hein, de suivre l'état écologique de ses eaux, donc dans le cadre de directives européennes. Et donc, elle doit mettre en place des méthodes d'études de ses habitats et de ses eaux pour savoir si elles sont en bon état, en mauvais état, et surtout si cet état s'améliore. Parce qu'en fait, on a des objectifs qui sont fixés par l'Europe d'amélioration de l'état ou de maintien en bon état. Et donc, on travaille beaucoup sur comment répondre à ces besoins réglementaires. Quand je suis arrivée à Andromède, on m'a demandé de m'intéresser à un habitat qui est le coralligène. C'est un habitat assez profond qui est construit par des algues rouges calcaires. On ne connaissait pas grand-chose de cet habitat, on ne savait pas trop comment l'étudier. Et donc, j'ai proposé une méthode basée, plus ou moins inspirée sur les coraux. Hein, avec des quadrats photographiques. Quadrat, en fait, en science, c'est une surface d'étude standard. Par exemple, 25 fois 25 cm. En fait, il y a deux règles qui délimitent un carré, et en fait, c'est une surface standard qu'on va échantillonner et qu'on va comparer. On va comparer les espèces qu'on va trouver dans cette surface à plein d'endroits. Et en fait, ben, on a essayé, ça marchait bien, et puis finalement, ben, il y a un réseau de surveillance qui s'est mis en place en 2010 et qui existe toujours, qui s'appelle RECORE. Et en fait, à la suite de ça, ben, j'ai mis en place d'autres réseaux de surveillance pour répondre à ces besoins réglementaires. Après, on s'est intéressé aux activités humaines, donc avec un réseau qui s'appelle Impact. là actuellement aux communautés de poissons avec un réseau qui s'appelle PSIS, dans lequel on utilise l'ADN environnemental, donc encore une nouvelle méthode. Donc les expéditions Gombessa s'appellent Gombessa parce que la première avait pour objectif d'aller à la rencontre du Sélacanthe. Mais en fait, Gombessa, c'est le nom local du Sélacanthe en Afrique du Sud. C'est un gros poisson qui peut faire plus de 2 mètres de long, qui ressemble à des poissons qu'on a l'habitude de voir fossilisés en fait. Donc c'était un peu ça ce qui est intéressant avec ce poisson. Il a été découvert dans les années 50. Voilà, on croyait que sa branche était éteinte. Il n'y avait plus aucun individu, plus aucune espèce vivante de sa branche. Et en fait, dans les années 50, il a été trouvé, pêché par des pêcheurs aux Comores. Il y a des scientifiques qui l'ont identifié et qui se sont dit « Ah, mais ça ressemble complètement à ces poissons préhistoriques. » Et en fait, oui, c'est ça. C'est un dernier cousin d'une branche qui est complètement éteinte et qui porterait donc les prémices des quatre membres des animaux terrestres. Il a aussi une ébauche de poumons, un beau poisson avec une sorte un peu de cuirasse aussi, des yeux vert émeraude, des petites taches dorées, il est très beau. Et puis cette expédition s'est bien passée, ça a bien marché, des mécènes qui sont intéressés à nos activités. Et donc, il y a une deuxième expédition qui s'est programmée. L'expédition Gombessa, c'était ce qui était connu. Donc, on s'est dit, on va le faire devenir un nom générique, les expéditions Gombessa. Et donc, Gombessa, la première, Gombessa 1. Et puis après, Gombessa 2, ou les Mérous, la Pacarava, la reproduction des Mérous. Gombessa 3, les écosystèmes profonds en Antarctique. Gombessa 4, les 700 requins. Et puis les deux derniers en Méditerranée. Tous les Gombessa, on s'appuie sur des experts locaux. Il y a trois piliers en fait, donc c'est le défi de plongée, le mystère scientifique et la promesse de belles images. Et donc nous, à chaque fois, on s'appuie sur des scientifiques locaux pour résoudre ces mystères. Et en fait, en 2019, quand on a voulu faire Planète Méditerranée, là, on s'est dit, finalement, les experts locaux, c'est nous, enfin, en partie, hein. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais finalement, on est quand même un acteur local important pour la Méditerranée. Donc, pour une fois, il y avait l'opportunité de s'appuyer vraiment sur l'expertise et les personnes d'Andromède Océanologie. Et donc, moi, sur Gombessa 5, j'étais la directrice scientifique, et donc j'ai coordonné la trentaine de scientifiques qui ont intervenu sur cette expédition. Les différents protocoles, et puis après je traitais les échantillons sur place et j'ai participé au montage de l'expédition. Et l'idée, c'était de faire connaître les récifs coralligènes profonds de Méditerranée et montrer qu'en Méditerranée, il y avait encore plein de belles choses et que ce n'était pas mer poubelle, comme on peut entendre à certains endroits, et qu'il y avait encore plein de belles choses et près de la côte. Voilà. Il ne fallait pas non plus forcément aller dans des endroits très distants.
Elle a observé de ses propres yeux les recoins les plus insondables de notre planète. Sylvia Earle, l'océanographe la plus célèbre des États-Unis, explore des profondeurs que l'on croyait pourtant inaccessibles.
J'ai le plaisir d'accueillir une scientifique, ingénieure, enseignante et exploratrice, le docteur Sylvia Alice Earle.
On a parfois du mal à savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Mais j'ai toujours voulu faire ce que font les scientifiques. Mais je n'avais pas les mots pour désigner ma passion. Je passais un temps fou dans la petite bibliothèque de Dundee, à lire assise par terre. C'est là que j'ai vu pour la première fois un livre de William Beebe. Je me suis prise de passion pour les sous-marins. Son livre, Sous la mer tropicale, a été publié dans les années 30. Il y raconte comment Otis Barton et lui se sont glissés dans cette petite sphère d'acier équipée d'un hublot minuscule pour observer à quoi ressemblait l'océan 800 mètres sous la surface. Ils ont découvert les fonds marins et les créatures phosphorescentes qui illuminent l'eau à des profondeurs que les rayons du soleil n'atteignent pas.
Donc là, on a pour la première fois couplé la plongée en recycleur électronique, donc qui est de la plongée loisir un peu high-tech, hein, qui permet d'aller de rester assez longtemps au fond, avec la plongée à saturation qui est normalement utilisée par les industriels pour faire des travaux sous-marins. Donc là, nos plongeurs vivaient dans une station sous pression, qui les gardent à la pression du fond où ils vont travailler. Sauf qu'en fait, au lieu d'être accrochés avec normalement un ombilical, donc normalement les travailleurs sous-marins, ils ont un ombilical qui les relie à la tourelle, qui leur apporte de l'eau chaude aussi, un peu de confort, on peut leur parler, voilà. Ben nous, nos plongeurs, ils en coupent le cordon et ils sont avec leur recycleur et donc ils peuvent s'éloigner de la station autant qu'ils veulent, en fait, hein, du moment qu'ils arrivent à la retrouver après. Et ça, ça permet du coup d'éviter les temps de décompression très longs, parce que quand on va à une centaine de mètres, ben, finalement, on peut rester pas très longtemps au fond. Quand je dis pas très longtemps, ça se compte en dizaines de minutes. Et par contre, les temps de palier pour remonter, ça se compte en heures. Donc en gros, il faut une journée pour rester 15 minutes au fond. Et là, en mélangeant donc la plongée en recycleur et la plongée en saturation, eh ben, on peut faire deux fois, trois heures de plongée à 100 mètres de fond, si on veut. Et puis après, bah, aller boire son café, manger tranquillement, sans faire de palier, puisqu'en fait, l'idée, c'est de faire tous les paliers de décompression à la fin, en deux jours ou en trois jours. Donc, on peut enchaîner tous les jours, comme ça, pendant trois semaines, des plongées, voire deux plongées de trois heures par jour, pendant trois semaines. Et puis, à la fin, on fait trois jours de décompression, et puis on sort et c'est fini. Bon, après, c'est facile à dire, mais... Donc ça a tellement bien marché. On s'est dit, en 2020, on va le réutiliser pour aller explorer les épaves profondes. Mais en 2020, ben, en fait, il y a le Covid. Donc, c'est tombé à l'eau. Et donc, nous, on n'a quand même pas arrêté de travailler à Andromède parce qu'il y a des obligations réglementaires qui nous ont permis d'aller travailler. Donc, on a fait, par exemple, de l'échantillonnage en temps de confinement. Ça nous a permis... de voir ce qui se passait sous l'eau quand il n'y avait pas d'activité sur la mer. Donc on a quand même allé plonger et on a travaillé pour le parc naturel marin du Cap Corse et de la Griatte qui nous a demandé d'aller voir les récifs coralligènes profonds dans sa zone. Et il y avait notamment des anneaux coralligènes qui avaient été découverts, touchés du doigt, on va dire, en 2006 par Fabrice Pluquet qui avait fait une thèse de cartographie autour de la Corse. Donc il a vu des petits oasis de vie en fait, mais il s'est pas vraiment rendu compte de ce que c'était. Donc il le cite dans sa thèse, il y a quelques photos, mais voilà, sans plus. Par contre, après en 2011, donc il y a d'autres chercheurs qui eux ont fait du sonar un peu plus poussé, qui ont vu cette accumulation de cercles. Hein, donc c'est vraiment quand on regarde le sonar, c'est des cercles posés les uns à côté des autres, presque tous pareils. Et donc en 2012, ils ont décrit dans une publication des atolls coralligènes. Donc nous, on préfère appeler ça des anneaux coralligènes parce que atoll, on trouve que ça prête un peu à confusion. On pense aux coraux des tropiques, alors qu'il n'y a pas de coraux, en fait. C'est des formes circulaires, donc il y en a des milliers, en fait. Hein. C'est situé à une vingtaine de kilomètres de la côte, sur 4 kilomètres carrés à peu près de zone, à 115 mètres de fond, c'est très précis, pas au-dessus, pas en dessous. Ils font tous à peu près 25 mètres de diamètre. Et donc, ces cercles sont formés de rhodolites. Ce sont des algues rouges calcaires qui vivent sous forme libre et qui forment des petits nodules. Donc, il faut imaginer toutes ces petites boules rouges qui vont s'accumuler en cercle. Et puis, au milieu de ce cercle, il y a un bloc coralligène, donc formé d'algues rouges, mais celle-ci fixe. Donc, ça peut faire un mètre cube. Il est au milieu, et puis là-dessus, il y a plein d'espèces qui poussent et qui se fixent, parce que sous l'eau, dès qu'on pose quelque chose de dur, eh ben, toute la vie se fixe dessus. Voilà, donc là-dessus, bah, vous avez des gorgones, des grandes gorgones que normalement on trouve dans des canyons sous-marins, donc beaucoup plus profonds, qui peuvent faire un mètre de haut et qui vont pousser là-dessus. Bah, dans cette publication, il y avait un mystère scientifique, donc un des trois paliers, des trois piliers de l'expédition Gambetta, parce qu'on ne connaît pas l'origine, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi, on se demande donc la dynamique, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se former, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se détruire, qu'est-ce qui vit là-dessus, et est-ce que quelles sont leurs menaces aussi, qu'est-ce qui peut les menacer, parce que finalement c'est aussi dans cette zone, pas très loin, qu'il y a eu deux gros bateaux qui sont rentrés dedans, dont un qui était au large du Cap Horn, un qui était ancré et qui s'est fait percuter. Ben, la saturation, plutôt que de la faire sur les épaves, on va venir ici. Donc ça voulait dire amener quand même la barge de saturation en Corse, parce que cette barge, elle est basée normalement à Marseille. Donc cette barge, c'était la barge école de l'INPP, l'Institut National de Plongée Professionnelle, qui est normalement utilisé pour former les scaphandriers industriels, qui leur apprend à plonger au fond à saturation. Et que là, en fait, on loue pour nos expéditions. Donc ça voulait dire emmener cette barge, tirée par un remorqueur, parce que cette barge, c'est une caravane en fait. Hein. Donc tirée par un remorqueur de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc ça, c'était pas évident. Il fallait réussir à convaincre l'INPP. Il fallait réussir à trouver le bateau. On pouvait emmener la barge. Donc, c'était quand même un rêve un peu fou. Mais voilà, c'est sûr que l'énigme scientifique, elle était là. Les promesses de belles images, a priori, elles y étaient. Et donc, après, on a mis tout en branle pour essayer que ça se fasse. En fait, en un an, on a tout monté, quoi. Et le plus dur, ça a été de trouver un remorqueur qui accepte de tirer cette barge. Et donc là, un peu coup de chance, alignement de planète. Il y a la Marine nationale, en fait, qui a accepté d'affréter un bateau, un remorqueur, pour tirer cette barge jusqu'en Corse et puis nous amener à chaque fois, garantir la sécurité et nous amener sur les sites. Ça, c'était le fameux pionnier, le remorqueur. Les plongeurs vivent dans ce qu'on appelle une station glaciale. Donc ça fait 5 mètres carrés. En fait, il y a un module, un espace de vie dans lequel il y a deux lits superposés. Ils sont quatre. Il y a une table. Quelques étagères avec des livres, des bancs pour s'asseoir, un endroit qui sert à passer les plats, voilà, un passe-plat pour les nourrir, les pauvres, et sortir les affaires de plongée mouillées, leur donner des nouveaux vêtements, etc. Il y a un bloc sanitaire qui est rattaché, qui est donc pareil, assez petit, dans lequel c'est toilettes et douches. C'est là aussi où ils s'habillent, où ils se mettent en combinaison de plongée. Et ensuite, de là, ils accèdent à la tourelle, donc l'ascenseur, pour descendre au fond. Donc ça fait 5 mètres carrés, c'est petit, ils sont 4, et ils ont vécu là-dedans 3 semaines. Alors, la station glaciale, elle est posée sur la barge de l'INPP, donc cette barge, cette ravine qui fait 25 mètres. La station glaciale, elle est posée dessus, et en fait, dans cette barge, il y a un trou, par lequel la tourelle, quand les plongeurs en fait veulent aller plonger, ils passent dans la tourelle. On ferme ensuite une porte étanche entre la station glaciale et la tourelle, et ensuite la tourelle descend par ce trou sur l'endroit de plongée. Alors nous, en dessous de la tourelle, on fixe du coup un panier, donc un panier qui est suspendu dans lequel on met du coup leurs appareils de plongée, donc les recycleurs de plongée et puis tous les appareils pour faire de l'image. Et du coup, quand ils arrivent en bas, la porte s'ouvre, donc ils mettent le détendeur en bouche pour respirer, donc là par un tuyau, mais tout petit, juste pour sortir par le trou. Ils s'habillent avec ce sous l'eau, donc ils enfilent leur recycleur sous l'eau, en dessous de la tourelle. Et au dernier moment, en fait, ils enlèvent le détendeur et ils passent sur leur détendeur de recycleur. Après, ils sortent du panier, ils vont chercher leur matériel photo, caméra, etc. Et puis c'est au deuxième de faire pareil, au troisième, au quatrième, les uns derrière les autres. Le matériel scientifique, il était envoyé dans un panier à part, on n'a pas accroché en dessous de la tourelle, c'était dans un panier qu'on descendait par le remorqueur. C'était un peu plus loin et en fait on mettait un pinger dessus. Les plongeurs, ils avaient un appareil qui leur permettait de se positionner en fait au fond, de savoir où ils étaient, de retrouver la tourelle, de savoir où était le panier de plongée, se localiser sur la carte des fonds qu'on avait fait en amont de la mission. Ils sont dans leur station spatiale, ils sont gérés par l'équipe de l'INPP pour tout ce qui est gestion des gaz, donc leur respiration, humidité, température, parce qu'il fait très chaud, hein, c'est une cocotte qui est en plein soleil, donc c'est arrosé aussi, qu'il ne fasse pas très chaud. Et ils sont filmés en permanence pour les besoins du documentaire par plein de petites caméras, il y a plein de petits micros partout. Ils respirent de l'hélium dans la station spatiale, donc ça déforme la voix, donc on ne comprend rien, ils ont des voix de canard. Et donc, nous, on avait un système de modulation de la voix qui retransformait la voix presque quasi en temps réel pour qu'on arrive à se comprendre. On avait une salle sur la barge, donc juste à côté de la station spatiale, dans laquelle on pouvait nous voir, on pouvait les voir et on pouvait se parler. On pouvait se comprendre assez facilement. Et donc là, on pouvait leur montrer des choses. J'avais une caméra dans cette salle, on pouvait leur montrer du matériel, leur expliquer des choses, une carte pour communiquer avec eux, c'était super. Ces quatre plongeurs, ils avaient chacun une personne qui s'occupait d'eux pour leur matériel de plongée. Parce qu'en fait, ils plongent, mais ils ne peuvent pas emmener leur recycleur à l'intérieur de la station spatiale, il n'y a pas de place. Donc le recycleur, il restait dans le panier. Donc c'est un peu particulier aussi, parce que ça veut dire qu'il faut faire totalement confiance à la personne qui s'occupe de votre matériel pour être sûr que la plongée va bien se passer. Hein. Mais bon, évidemment, chacun avait choisi la personne de son choix s'occuper de son matériel. Et donc, ces personnes s'occupent de tout. Donc, ça va du recycleur à faire sécher la combinaison, préparer les gants, les appareils photo, de recharger les appareils, mettre les bons appareils, les bons flashs, les bons objectifs. C'est vraiment le double du plongeur, mais en surface.
Un programme d'études océaniques des plus ambitieux vient de démarrer dans cette petite baie d'une île magnifique des Caraïbes. Tektite 2 est le nom de la base sous-marine destinée à un programme de recherche mené par les universités américaines avec le soutien de leur gouvernement.
En 1969, j'ai vu une annonce sur le bulletin d'information de Harvard. Nous recherchons des scientifiques prêts à vivre 2 semaines sous l'eau au large des îles Vierges. C'était leur phrase d'accroche. J'avais déjà accumulé plus de 1000 heures de plongée et j'avais un certain nombre de publications à mon actif. Je n'avais pas imaginé qu'ils ne recherchaient pas de femmes. C'est Jim Miller, le chef de la mission, qui a dû trancher la question. Il a dit... La moitié des poissons sont de sexe féminin et la moitié des dauphins aussi. On doit pouvoir supporter quelques femmes.
Une équipe de plongeurs se propose durant 2 semaines de vivre aux côtés des habitants du plancher océanique. À leur tête se trouve la célèbre scientifique Sylvia Earle, spécialiste de la botanique marine et plongeuse chevronnée. Elle s'apprête à découvrir leur nouvelle demeure, équipée de tout le confort moderne, télévision, réfrigérateur et moquette.
À l'intérieur, on était au sec, mais il suffisait de se glisser dans une trappe pour se retrouver dans l'eau. On pouvait passer 10 ou 12 heures par jour dans l'eau. J'étais comme une enfant dans une confiserie, sauf que mes bonbons étaient vivants. On évoluait au milieu de tous ces animaux que l'on finissait par connaître individuellement. Il y avait ce groupe de 5 poissons-anges qui passaient nous voir tous les matins. Chacun avait un comportement et une personnalité propre. C'est ce séjour qui m'a donné une perspective probablement différente de celle de la plupart des gens. Pas seulement sur l'océan, mais aussi sur ses habitants. Avant cette mission, j'évoluais dans une sphère strictement scientifique, sans contact avec le grand public. Mais le programme Tektite a tout changé. J'étais forcée de sortir de ma coquille. Il y a eu une parade en notre honneur dans les rues de Chicago, et le maire nous a remis les clés de la ville.
Bienvenue. De ces 3 femmes, qui est la vraie Sylvia Earle?
Sylvia Earle, c'est la numéro 2.
Sylvia Earle a dépoussiéré l'image de l'océanographe barbu vêtu d'une chemise de flanelle.
Selon une idée répandue, les femmes n'étaient pas faites pour la plongée. Comment aurait-elle fait pour soulever les bouteilles d'oxygène sans l'aide d'un homme?
Elle a fait voler les barrières en éclats. Toutes les femmes, entre autres les scientifiques, peuvent lui en être reconnaissantes.
Donc la station spatiale sur la barge, la barge tirée par le remorqueur, et en fait il y a un autre bateau, c'est un trimaran qui s'appelle Victoria 4. Et en fait, moi je dormais sur ce trimaran avec quelques autres personnes, dont le directeur de plongée, le coordinateur surface, et puis l'équipe cinéma, l'équipe film qui s'occupe de faire le documentaire. Donc on dormait tous ensemble sur ce bateau qui contient qui a 19 places. Donc 6h30, 7h le lever, petit déj, et généralement à 7h30 on partait en zode, en zodiac, en semi-rigide, pour rejoindre le pionnier. Donc en fait moi je me faisais jeter, c'était un peu ça quand même, il y avait une échelle qui pendait sur le bord du pionnier, je me faisais jeter sur l'échelle qu'il fallait attraper. Donc il fallait attendre que la vague soit en haut pour que je puisse attraper le matériel qui était toujours lourd évidemment. Que ce soit pas trop dur à attraper. Et ensuite, les autres, ils allaient généralement à la barge pour aller aider les plongeurs. Donc là, je préparais le matériel. Je ramenais les plats aussi, parce qu'en fait, toute la cuisine était faite sur le pionnier. Donc le soir, on mangeait sur le Victoria, mais il fallait que je ramène les plats vides à la cuisine. Donc ça, c'est un peu... sur un bateau, on fait un peu tout. Hein, donc voilà. Donc je faisais livreuse de plats aussi. Après, donc je préparais le matériel pour la science. C'est préparé dans le panier, des filets, des pinces, des sacs plastiques pour mettre les prélèvements, un hydrophone s'il fallait poser l'hydrophone, la carotteuse s'il fallait faire une carotte. Bon, ça dépendait de ce qu'il fallait préparer. Ensuite, je traversais à l'aide d'une espèce de petite passerelle mouvante. J'allais sur la barge pour aller voir les plongeurs. Donc là, l'idée, c'était de leur expliquer ce qu'ils allaient faire. Donc le but du jour, eux, ils devaient aussi se suivre tout seuls. Donc ils avaient des données à recueillir sur physiologiques, donc sur leur état de santé, leur température, tout un tas de mesures à faire. Ils avaient des appareils à l'intérieur. Donc, il fallait aussi que je récupère ces données, leur rappeler de le faire s'ils n'avaient pas fait, ils pouvaient arriver, leur expliquer ce qu'ils allaient faire sur la prochaine plongée pour la partie scientifique, leur expliquer le matériel que j'avais préparé. Pendant qu'ils se préparaient, le pionnier, donc le remorqueur, amenait la barge exactement au bon endroit, donc avec un positionnement dynamique, et puis avec donc, la carte qu'on avait fait en amont. Dès que le pionnier était en place, donc là, moi, je montais, pas au dernier étage, mais presque, enfin, la proue du bateau, pour faire des relevés des paramètres environnementaux. Donc ça, c'est une grosse sonde multiparamétrie qu'on accrochait à un bout, à une corde, que je descendais donc jusque presque le fond. Je faisais ça avec deux matelots qu'on laissait un peu au fond, qu'on remontait tout doucement. Et en fait, on faisait tout un tas de relevés d'oxygène dissous, de chlorophylle A, de température, donc pour établir un profil dans la colonne d'eau. Après, du coup, on la remonte, je la nettoie, je la range. Et en général, pendant ce temps-là, les plongeurs sont en train de descendre dans la tourelle. Et là, je revenais me mettre sur le remorqueur et là j'allais dans l'espèce de petit algéco de la Céphismer. C'est une cellule militaire qui avait amené un ROV. Le ROV il s'appelait Ulysse et en fait qui profitait de cette expédition pour effectuer un super entraînement en fait du ROV parce que du coup on leur a fait faire plein de trucs qu'ils n'avaient jamais fait. Donc, surveiller des gens, être à côté de gens, mais pas trop près, déplacer du matériel, le ramener, le reposer, le déplacer un peu. Voilà, donc on leur a fait faire tout un tas de choses. Et donc là, ils suivaient les plongeurs. Et ça, c'était chouette parce que du coup, on pouvait voir en temps réel sortie des plongeurs de la tourelle. Et puis on pouvait les voir partir au panier scientifique, récupérer le matériel et puis faire ce qu'ils devaient faire. Donc là, en direct, vous pouvez voir s'ils ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire. Puis après, dès qu'ils avaient fini la partie scientifique, donc en général, ils faisaient ça en premier, Ils remettaient tout le matériel dans le panier. Et en fait, nous, on... donc là, le ROV disait, bah, OK, le panier, il est plein. Le remorqueur remontait le panier. Et après, les plongeurs s'occupaient de tout ce qui était images. Et donc là, moi, ça m'intéressait moins. Mais par contre, là, j'allais récupérer le panier qui arrivait en surface, monté par une espèce de grue, posé sur le pont du remorqueur. Et là, en fait, c'est un peu une course contre la montre. Il faut récupérer tous les échantillons et les mettre en conservation le plus vite possible. Donc, leur mettre leurs petites étiquettes, les découper, les mettre dans de l'alcool, au congèle, remplir les fiches de terrain, noter tout ce qui a été fait, pas fait. Tous les échantillons, j'ai traité dans ma buanderie tout seul entre les machines à laver. Et après, il fallait tout nettoyer. Ensuite, on fait le point sur le travail. Après, donc, j'allais voir les plongeurs pour débriefer. On fait le point sur la plongée du lendemain, de ce qu'on va faire sur le lendemain. Et puis après, l'occupation principale, de toute façon, c'est la météo, parce que c'est ça qui nous dicte ce qu'on va faire, en fait. Hein. On a toujours des objectifs scientifiques, mais après, il faut faire en fonction de la météo et de l'état de santé des plongeurs, enfin, moral et santé. Donc, voilà. Donc, il fallait se discuter tous ensemble, toujours. Et puis, les besoins du film. Faut pas oublier non plus qu'il y avait un documentaire qui se filmait en même temps et que, du coup, eux, ils avaient aussi leurs propres besoins. Donc, il fallait que tout le monde se mette d'accord pour la plongée du lendemain. Il y avait aussi répondre à toutes les sollicitations des médias. Parce qu'en fait, il y avait un gros suivi médiatique. Donc, il y avait tous les jours des interviews. Il fallait gérer, répondre. Voilà. Donc à chaque fois, c'était la partie. Quand les gens se posaient des questions sur la partie scientifique, c'était moi. Écrire toutes les posts pour les réseaux sociaux. Donc ça, c'était moi aussi pour la partie scientifique. Et après, le lien avec les scientifiques aussi, parce qu'on faisait des prélèvements pour différentes personnes. En fait, il y avait presque 40 scientifiques qui ont tourné autour de cette expédition. Et finalement, ils sont pas beaucoup être venus à bord. Parce qu'on avait un peu un manque de place et que c'était assez loin des côtes, donc on ne pouvait pas faire des allers-retours tous les jours. Donc c'est pour ça que je faisais beaucoup pour les autres, mais il fallait toujours fallait les tenir au courant, et puis ils vivaient un peu l'expédition par procuration, et puis vérifier qu'on avait bien fait comme il fallait. Il y a plusieurs hypothèses qu'on a émises pour justement l'origine de cette forme circulaire. L'une de ces hypothèses, c'était une effusion de gaz ou d'eau douce verticale. Et ça, on a vite su que c'était pas ça, parce qu'on a mesuré les courants, on a mis un appareil pour mesurer les courants, et en fait, il n'y avait pas de dégagement à cette place-là. Après, c'est resté que 15 jours en place, donc on ne sait pas si... C'est peut-être intermittent, c'est peut-être pluvieux. On attend beaucoup des carottes. On a fait des carottages, en fait, des noyaux centraux. Donc, on espère qu'on va avoir des réponses parce que ça va nous dire la composition, l'âge. Ce qu'on sait a priori, c'est que ça s'érode. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est en train de se former, c'est plutôt quelque chose qui est en train de se dégrader. On n'a pas encore la réponse à l'énigme. Et puis, mais en même temps, si je l'avais, je ne la donnerais pas. Parce que c'est un peu le clou du documentaire. Je ne vais pas dire que j'ai toujours été une amoureuse de la mer. Si je ne vais pas sur la mer, je suis malheureuse et tout ça. Non, ce n'est pas vrai, parce que moi, j'aime bien la verdure. J'aime bien le bleu, mais quand je rentre, j'aime bien la forêt. Ce que j'aime, en fait, sur la mer, voilà, c'est vraiment la sensation de liberté et ce, ce rapport à la nature. On a l'impression d'être là, dans le côté sauvage, nature. Et puis, ce que j'aime bien aussi, ce qu'on retrouve, en tout cas, quand on est en mer, c'est l'esprit de solidarité qu'on retrouve toujours entre les gens sur un bateau. On est souvent très serré, on n'a pas beaucoup d'espace, des fois pendant longtemps, et on partage les bons moments comme les mauvais moments. Et ça, j'aime bien aussi, de l'équipe tous ensemble, de savoir qu'on peut toujours compter les uns sur les autres.
L'épopée Gambessa continue. Cet été, l'équipe repart sur ses anneaux coralligènes pour continuer leurs recherches et essayer de percer leur mystère. Retrouvez le portrait de Julie sur le site du podcast womenoftheseas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, faites un bond dans le passé à bord de l'Hermione, réplique d'une frégate de guerre du XVIIIe siècle.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.